Vous écoutez Ma cuisine ayurvédique, épisode 8. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffen Paonessa, nutritionniste spécialisée en Ayurveda et je suis ravie de vous accueillir dans Ma cuisine ayurvédique, le podcast qui vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine avec à chaque épisode une recette ou un menu dans votre email et des conseils concrets pour manger mieux et vivre mieux. Bonjour à tous, alors voilà, c'est un numéro un peu spécial. Habituellement, je fais un numéro par saison, mais voilà, aujourd'hui, j'ai un invité. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le connaissez sous le nom du mari indigne. Il s'agit de Marco Paonessa.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Alias Marco Pao Coach sur Instagram. Alors, il faut que je vous dise que toutes les recettes de mon livre « L'art de se nourrir avec l'Ayurveda », eh bien, c'est lui, le carnivore invétéré qui les a testés et d'ailleurs presque toutes validées. D'ailleurs, sa recette préférée, ce sont les pâtes végétariennes façon carbonara au poireau.
C'est vrai. Il y avait aussi les crêpes d'haricots.
Oui, voilà, les crêpes de haricots mungo.
Très bon, ouais.
Alors, Marco est relaxologue accrédité ASCA en Suisse et aussi life coach certifié. Et aujourd'hui, eh bien, je vous parle de programmation neurolinguistique, je vous parle de visualisation positive, ou plutôt c'est Marco qui va vous en parler peut-être, etc. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans ma cuisine ayurvédique, ces histoires de PNL, de visualisation positive, de psychologie positive, etc. Eh bien, parfois, on a beau savoir ce qui est bon pour nous, avoir bien écouté le médecin ou la thérapeute qui nous a bien expliqué ce qu'on pouvait manger ou pas, eh bien, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à mettre en place les changements, ou alors on commence tout feu, tout flamme, et puis on retombe comme un soufflet. On a du mal à tenir sur la longueur, alors que, justement, l'Ayurveda, c'est pas un régime express, mais c'est plutôt un mode de vie à long terme. Donc, ça veut dire que ça demande quand même un peu de persévérance. Déjà, je dois vous dire qu'il y a une notion que j'aime vraiment en Ayurveda, c'est cette idée que la source, l'origine d'une bonne partie des maladies, eh bien, c'est l'ignorance. Il y a cette idée que l'ignorance pousse l'individu à faire des choix préjudiciables pour lui-même et on peut vraiment prendre ça de multiples façons. Alors, je dis ignorance, hein, mais je ne le dis pas de façon culpabilisante ou négative. On pourrait aussi dire un défaut de connaissance ou un manque de discernement. Notre capacité d'intelligence, notre capacité à discriminer le bon du mauvais dicte nos actions et bien souvent nos erreurs en termes d'alimentation, mais ça peut tout à fait être pour d'autres habitudes, comme par exemple la cigarette, eh bien ces erreurs, elles peuvent être liées à une force d'inertie ou un manque de discernement qui peut mener à plus ou moins long terme à des problèmes de santé. Alors ce processus, il peut se manifester de différentes façons. Hein. Ça peut aussi bien être le résultat d'un manque de connaissance des aliments, de la manière de préparer un repas, qu'un manque de connaissance de soi, de la façon dont on fonctionne, ou bien des raisons qui nous poussent à toujours agir de la même façon, même si c'est mauvais pour nous. Alors pour être plus précise, je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, prenons par exemple le fameux 3 produits laitiers par jour. Évidemment, ça vous dit quelque chose. 3 produits laitiers par jour, c'est un slogan hyper connu qui est régulièrement rappelé par la communauté médicale pour une alimentation saine. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas parce que c'est communément admis et recommandé pour tout le monde que c'est juste. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'on est tous différents. Donc il y a des personnes pour qui ça va fonctionner et d'autres qu'au contraire ça va rendre malade ou à qui ça va vraiment faire prendre du poids. Et moi j'ai fait partie de ces gens-là, c'est-à-dire que pendant des années j'ai respecté ce précepte à la lettre, hein. J'ai bien mangé mes 3 produits laitiers par jour et j'ai enchaîné les problèmes respiratoires, les rhinites chroniques, l'asthme, au point d'ailleurs qu'on m'a proposé de m'opérer hein, parce que je ne pouvais plus respirer autrement que par la bouche et j'étais obligée de dormir assise tellement mon nez était obstrué. Alors voilà, ça c'est un exemple basique, mais ça illustre bien comment l'ignorance peut être à l'origine de problèmes de santé. Et le jour où je me suis mise à l'Ayurveda, ma santé a vraiment évolué et s'est vraiment améliorée, alors que tous les traitements médicaux que j'avais essayés auparavant avaient été un échec. Alors bon, c'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'il me concerne personnellement, donc je l'ai vécu dans ma chair, donc je peux vraiment l'affirmer avec force. Donc ça, c'est une forme d'ignorance, une méconnaissance des principes alimentaires de base. À notre époque où tout est disponible tout le temps, eh bien, c'est problématique. Parce que justement, l'apparente abondance de tout un tas d'aliments différents, eh bien, ça augmente les probabilités d'avoir un régime alimentaire incohérent. Et ça, encore plus avec les réseaux sociaux, où on voit passer un tas de choses soi-disant saines qui ne le sont pas du tout. Alors, ce genre de situation, je le rencontre très fréquemment en consultation. Et si ma cliente a la volonté de faire les changements, eh bien, c'est relativement facile à changer. Et c'est gratifiant d'ailleurs pour la personne parce qu'en général, dès que les changements sont mis en place, on obtient des améliorations, que ce soit en termes de poids ou en termes de bien-être. Deuxième exemple, on peut très bien savoir ce qui est bon ou mauvais, mais pour autant succomber quand même et privilégier un plaisir temporaire plutôt que la santé sur le long terme. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand le médecin nous a demandé de réduire certains aliments parce qu'on a trop de cholestérol, mais qu'on continue quand même à garder nos mauvaises habitudes. Donc, il y a là aussi une erreur de jugement. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si facile d'arriver à changer. Il y a un vieux proverbe qui dit « quand on veut, on peut ». Eh bien, moi, je pense que c'est plus complexe que ça et qu'on peut avoir besoin de soutien. Mon avis sur le sujet, c'est que quel que soit l'endroit d'où on part, le seul prérequis, c'est d'avoir envie de changer, d'avoir au moins un petit peu de motivation et à partir de là, on peut aller où on veut. Il faut quand même souligner autre chose. D'abord, c'est qu'on a tous nos petites habitudes, y compris des habitudes alimentaires auxquelles on est attaché. Pourquoi on y est attaché ? Eh bien, tout simplement parce que c'est confortable. C'est toujours confortable de suivre une habitude, c'est un peu un mode pilote automatique, c'est reposant. Donc, remettre en cause ces habitudes, même quand elles sont nocives, eh bien, c'est un peu secouer le cocotier, ça peut être déstabilisant, c'est un peu inconfortable et ça demande de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là où il y a une espèce d'énergie d'inertie, une espèce d'inaction qui nous empêche de changer et qui nous maintient dans de mauvais schémas? Eh bien moi, en tout cas, la façon dont je travaille, c'est d'abord en expliquant le pourquoi du comment et en donnant les bonnes informations. Donc ça, c'est hyper important hein, parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est plus facile de respecter une règle quand on sait pourquoi on doit la respecter que si je vous dis, par exemple, simplement arrêter de manger des yaourts. Ben, si je vous dis arrêter de manger des yaourts, c'est pas pareil que si je vous dis le yaourt, c'est lourd. Ça favorise la production de mucus. Donc, si vous êtes asthmatique et que vous produisez beaucoup de mucus, je vous déconseille d'en consommer dans grande quantité, et en particulier le soir où la digestion est ralentie. Là, on comprend vraiment pourquoi c'est nécessaire de changer d'habitude. Ça devient logique et ça nous permet de peser le pour et le contre et d'être plus à même de faire les bons choix. Ensuite, une fois que les informations ont bien été comprises, on définit des objectifs précis. On définit un plan d'action, pas trop haut, mais pas trop bas non plus, et on avance petit à petit. Maintenant, c'est vrai que quand on remarque que notre mental s'arrange toujours pour remettre au lendemain, eh bien, on peut avoir besoin de débloquer la situation par d'autres outils, et ça, on va en parler avec Marco. Ensuite, il y a une autre forme d'ignorance que j'appelle plutôt une forme d'aveuglement ou d'oubli, et que je rencontre chez d'autres profils qui ont besoin de travailler sur leur alimentation, mais je dirais que ces difficultés, ce n'est pas juste des difficultés avec la nourriture. On va se rendre compte assez rapidement qu'en fait, derrière l'assiette, eh bien, c'est autre chose qui se cache. Et donc, dans un premier temps, bien sûr, on va rétablir les bases de ce qu'est une alimentation humaine rationnelle, qui respecte le corps, avec les outils de l'Ayurveda, mais derrière ce désordre, il peut y avoir autre chose. Donc ces situations, c'est des situations dans lesquelles les difficultés alimentaires sont l'arbre qui cache la forêt. La nourriture, c'est un peu une espèce de bouée de sauvetage pour faire baisser les tensions internes. Donc ces tensions qu'on rencontre souvent, ben, ça peut être des émotions mal identifiées, ça peut être du stress, des conflits au travail, ça peut être un manque affectif ou même un manque d'estime de soi, etc. Donc ça, parfois, mes clientes, elles en ont conscience elles-mêmes, elles vont me dire direct, ce qui me fait déraper, c'est l'anxiété, manger, ça me calme, ou alors, je me sens tellement mal dans ma peau que des fois, je pense que la nourriture, c'est le seul moyen de me sentir mieux, même si c'est éphémère. Et puis parfois aussi, eh bien, mes clientes, elles n'ont pas conscience du tout de ces mécanismes, ou encore, elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur les causes exactes de leurs difficultés. Alors dans ces cas-là, en particulier, on a vraiment besoin de remonter à la source, de comprendre d'où viennent les difficultés alimentaires, d'où vient cette appétence pour le sucre, ou le besoin de rouvrir le frigo à 22h alors qu'on n'a même pas faim. Eh bien, on a besoin de remonter à cette source pour comprendre et pour pouvoir traiter le problème à la racine. Moi, quelle que soit la personne qui vient me voir, mon premier chantier en tant que nutritionniste ayurvédique, eh bien, c'est de remettre de l'ordre, c'est de travailler à rétablir les bases de ce qui est une alimentation humaine rationnelle avec les outils de l'ayurvéda. Donc avec mes clients, on va d'abord travailler sur toute la partie très concrète des menus au quotidien, des habitudes alimentaires. Donc bien sûr, on travaille sur le type d'aliment qui est favorable, sur les quantités en fonction des saisons, du style de vie. Et bon, parfois, selon les besoins, eh bien, je compose des menus sur mesure ou bien des recettes personnalisées. Et puis, après une première phase d'accompagnement, il arrive qu'on rencontre des résistances, des difficultés à changer les comportements. Et en grattant, très régulièrement, je constate qu'il y a des questions émotionnelles derrière une alimentation désordonnée ou inadaptée. Et donc, on peut avoir besoin de travailler sur ce plan-là. Mon travail à moi, c'est de vous en faire prendre conscience, de vous y faire réfléchir. Alors parfois, je vais donner un travail à faire entre deux séances. On va remplir un carnet de bord pour identifier les phénomènes de compensation par la nourriture. Mais ensuite, eh bien, un travail différent, un travail axé sur les déclencheurs qui nous poussent à nous réfugier dans la nourriture peut être nécessaire. Alors ça peut être en visualisation positive, en breathwork, en programmation neurolinguistique ou en life coaching. Et ça, Marco, c'est ton domaine.
Il y a plusieurs sujets qui résonnent sur tout ce que tu viens de dire. Mais bon, rapidement, j'ai donc me présenter. Je m'appelle Marco Paonessa. Par souci de facilité sur le réseau, je suis Marco Pao, P-A-O. Et j'ai une double casquette. Donc j'ai une formation de relaxologue spécialisée sur la gestion du stress. Et aussi life coach certifié. Donc, dans mon cabinet à côté de Genève, des personnes viennent me voir, me consultent sur des sujets liés au stress ou l'envie de changer de comportement, des sujets de prise de poids, de confiance en soi ou encore de préparation mentale avec les sportifs. Alors, cette introduction, moi je l'aime bien parce qu'il y a différents sujets. Le premier, c'est qu'on est dans un monde où on confond information et connaissance et publicité. Et souvent, cette parabole du ruisseau qui coule, il faut remonter à la source, c'est qu'on nous vend l'idée que lorsqu'on a un souci, c'est un point de départ et le fournisseur de services ou de produits va venir mettre des choses par-dessus pour régler le problème. Alors que, comme tu l'expliques, souvent, il faut remonter un petit peu la source, vers la source de ce ruisseau pour comprendre que ce que l'on veut changer est une conséquence à quelque chose. On en parlera un peu plus tard sur répondre à ses besoins. La deuxième, et c'est ce que je vois souvent dans mon cabinet, c'est qu'on peut savoir beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Donc là, on est plus dans mon domaine qui est cognitif que nutritionnel, de trouver les bons mots, et peut-être qu'on l'a tous... On a tous eu cette expérience d'avoir lu 2-3 bouquins sur le sujet, on sait le sujet, et c'est souvent ce que je vois dans mon cabinet en disant mais je sais, je dis mais ok, pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action alors? Voilà. Et ça, il faut vraiment faire une différence entre avoir des connaissances et passer à l'action.
Alors, relaxologue, c'est un terme qu'on connaît en Suisse, hein. C'est une thérapie qui est même prise en charge par certaines assurances, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Moi, j'ai pris l'habitude de dire aux gens qui me demandent que c'est un ensemble de techniques qui permettent de retrouver un équilibre corps-esprit pour favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel. Mais peut-être que je résume mal, tu as peut-être quelque chose à rajouter ?
Non, ça s'est bien résumé. Maintenant, pour complémenter, on peut considérer qu'un relaxologue, c'est une personne qui a un ensemble d'outils pragmatiques. Et on n'est pas dans des logiques philosophiques ou spirituelles. On est très orienté sur l'anatomie physiologie, sur le lien entre le corps et l'esprit, en sachant qu'on peut avoir, on a des sens, on peut avoir des sensations, on a le cortex limbique qui va envoyer tout ça dans le corps, puis il y a un retour entre le corps et l'esprit. Bref, on est vraiment dans une dimension très physique. Alors les techniques sont des techniques de respiration, des techniques d'auto-hypnose, d'imagerie mentale et des méthodes psychosensorielles.
D'accord. Et deuxième casquette, tu es aussi life coach certifié.
Alors là, life coach certifié ou coach de vie, suivant son anglicisme, en fait, on est vraiment plus dans le développement personnel. Donc, il n'y a pas que le stress, mais aussi l'envie pour certaines personnes d'atteindre ses objectifs ou tout simplement de mettre de la clarté dans ses priorités. Car nous pouvons être dans une phase d'âge où on doit mettre un peu de l'ordre sur le pourquoi on se lève le matin et où on veut être dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Et puis aussi, il y a des sujets qui sont d'arrêter de mauvaises habitudes, de confiance en soi et de perte de poids par la gestion de ses émotions. Donc là, pour répondre aux questions de « mais c'est quoi comme outil ? Quelles sont les bases théoriques ?» On est dans la programmation neurolinguistique, dans la psychologie positive, dans la communication assertive, lorsque c'est des sujets relationnels. Et puis, on va prendre dans les théories de Maslow, Diltz ou Milton Erickson. Voilà.
Ok, alors tout à l'heure, j'ai parlé de deux types de situations qui font qu'on peut avoir du mal à changer ses habitudes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la situation où on sait pertinemment qu'on devrait éviter certaines choses. Notre médecin nous a prévenus, par exemple, qu'on devrait manger moins de viande ou alors moins de sucreries, etc. Mais on a beau savoir, eh bien, on continue à faire pareil. Alors là, pour moi, on est presque dans une situation qui demanderait du life coaching, non ? C'est quoi, toi, tes outils dans une situation comme ça ?
Alors, dans une situation comme ça, qui n'est pas extrêmement précise, donc, comme tu le disais en introduction, on est tous uniques. Donc, on est dans une configuration particulière avec une personne qui a une personnalité particulière, qui a une expérience particulière et qui a déjà peut-être eu un chemin de tenter de résoudre ses problèmes. Maintenant, je vais répondre à cette question de manière généraliste, donc aussi très simpliste. Donc, évidemment, ça ne va pas être aussi fin que si je suis face à une personne en particulier. Mais pour jouer le jeu... Nous partons d'un constat, si c'est par rapport à la nourriture, nous agissons, nous absorbons en fait quelque chose en particulier. Et nous le faisons automatiquement. Et ça, en général, c'est que nous répondons à un besoin. Et même si c'est une mauvaise habitude, en programmation en neurolinguistique, on considère qu'il y a une intention positive derrière chacune de nos actions. On ne fait pas des choses sans aucune raison au final. Alors, la PNL, c'est ces trois choses, en fait. C'est la programmation. Donc, je vais prendre un peu une parabole d'un ordinateur. Le P pour programmation, grosso modo, nous fonctionnons comme si nous avions un programme. S'il arrive telle chose, je vais réagir physiquement, psychologiquement, de telle façon. Et ça, c'est dû à mon environnement, mes expériences, ma culture, mes connaissances. Typiquement, quelqu'un voit une araignée, une personne réagit d'une certaine façon, une autre réagit d'une autre façon. Voilà, c'est la programmation. Le N, la partie neuro-linguistique, considérer que c'est un petit peu le disque dur qui prend toutes les données, car tout ce qui se passe dans votre vie sont enregistrés, même inconsciemment, les couleurs, les odeurs de chaque situation. Et donc, ce disque dur, en fait, il enregistre tout, des fois pas très très bien. On peut parler de distorsion. Il range les choses, des fois pas très très bien. On peut généraliser. J'ai une mauvaise relation avec tel type d'homme ou de femme. Et donc, comme il vient de tel endroit où il a telle apparence, je vais penser qu'ils sont tous pareils. Et le dernier élément sur la partie neurologique, on a tendance à trier les choses dans certaines circonstances. Et le troisième élément, la partie linguistique, c'est au niveau du langage. Langage verbal, paraverbal et non-verbal. Et de là, comme un narrateur, il faut un langage de programmation. Donc, sa façon de vivre ses expériences, la façon dont on les nomme et la façon dont on parle de soi a énormément d'importance. Donc, quand on prend ces trois éléments, programmation neuro-linguistique, on est dans le domaine de la PNL. Donc, pour faire rapide, c'est quelque chose qui a été construit dans les années 70, 70, par deux, trois hommes qui étaient spécialisés en psychologie, mathématiques et linguistiques et qui ont pris les façons de travailler de grands psychiatres, psychologues et hypnotiseurs et qui en ont fait des protocoles. Et pour schématiser les choses, ça a fait à la fin un domaine qui est une sorte de boîte à outils qui permet de régler certains problèmes, changer des habitudes, changer notre façon d'agir et surtout de mettre un bon état d'esprit pour atteindre ses objectifs.
Donc, est-ce que tu es en train de dire que par le langage, je peux modifier mes comportements ?
Tout à fait. En fait, on parle de langage transformationnel. Un des piliers de travail que j'ai, c'est que le corps est lié à l'esprit et souvent je remarque sur le sujet de la perte de poids que lorsqu'une personne parle d'elle-même négativement, ça ne va pas aider, tout comme un joueur de basket ou de football qui dit du mal de son coéquipier. On peut se douter que l'équipe ne va pas gagner à la fin. Le langage est un élément important pour soi et pour les autres. Et si, dès demain, vous commencez à changer votre façon de parler vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, vous allez voir la transformation qui va se passer. Évidemment, il ne faut pas s'inventer des choses en disant « je suis Superman tous les matins, ça va changer quelque chose », mais tourner les choses sous une forme positive, en montrant qu'on fait de son mieux, qu'on y arrive, que chaque jour on avance, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et que les échecs sont que des apprentissages, ça change beaucoup les choses.
C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas moi, je remarque qu'on peut avoir des discours négatifs sur soi sans même s'en rendre compte. Et on ne pense pas que ces petites pensées, même si elles ne sont pas verbalisées, eh bien, peuvent influencer nos comportements. Donc ça, je trouve ça très intéressant en fait que tu soulignes ça.
En fait, c'est vraiment un domaine qui va de Carl Rogers à Rosenberg avec la communication non violente. On pourrait en parler pendant des heures. Lorsqu'on tourne une phrase de manière négative, on va penser qu'à la négation et ne pas faire quelque chose, ne pas manger de chips. Résultat, le cerveau va entendre le mot chips. Donc, au niveau neurologique, on voit que les phrases négatives ne servent strictement à rien. Donc, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger trop de chocolat, en fin de compte, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a aussi le langage non-verbal. Lorsque je reçois des gens, j'écoute plus leur façon de bouger leur corps quand ils me parlent que ce qu'ils disent en eux-mêmes, en fait. Parce que le langage non-verbal et paraverbal, mon intonation, mon volume, etc., parle beaucoup. Donc la dimension langage est extrêmement intéressante et c'est un long sujet. Si dès demain, on commence à dire « je fais attention à ma façon dont je parle », ça a un réel impact.
Ah, c'est hyper intéressant. Et puis, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que tu as pris l'exemple des chips. Est-ce que tu es en train d'essayer de me faire passer un message par hasard ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour donner des leçons.
Oui, c'est ça, ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que, pour certaines personnes, l'assiette, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et que pour ces personnes-là, eh bien, entamer un travail sur l'émotionnel, c'est vraiment nécessaire pour changer de programme, comme tu disais tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, encore une fois, je vais devoir parler d'un cas que je ne connais pas et qui n'est pas spécifique. Donc, c'est assez général. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Le premier, il y a un événement, une situation. Exemple, on est adulte, mais on n'a pas été assez aimé par ses parents ou on a perdu sa grand-mère trop rapidement. Ça, c'est l'événement ou la situation. Le deuxième, il y a cette perception de cet événement et c'est important. Parce qu'au final, peut-être qu'on a le sentiment de ne pas avoir été aimé par ses parents, mais ses parents ont beaucoup donné. Mais soi-même, on est extrêmement demandeur d'affection et on n'a pas été rempli totalement de ce qu'on demandait en affection. Et quand je dis rempli totalement, dans mon travail, on utilise les mots et les verbes avec beaucoup d'importance et je dis pas, j'utilise pas rempli sans raison par rapport justement à la nourriture. Le troisième élément, ça va être mon état intérieur. Tous les matins, quand je me lève, comment je me sens ? Est-ce que je suis déjà stressé ? Est-ce que je suis déjà tendu ? Ou c'est au fil de la journée, par rapport aux événements de ma journée, que je vais changer ? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup. Si je prends la parabole d'un potager, en fait, c'est quelle est la qualité de la terre ? Est-ce qu'on est sur une terre totalement acide ou dès le matin, on est sur une terre qui est généreuse et qui a une grande propension à faire des fruits et des légumes ? Ça, c'est un terrain assez important pour le relaxologue d'arriver à changer son état intérieur avant même sa capacité à gérer mieux les événements de la vie. Et le quatrième point, nous sommes construits pour réagir. Dans le sens où nos émotions, la peur, la colère, et derrière ça le stress, nous amènent à normalement avoir une réaction physique. Parce que nous sommes issus du monde animal et de l'embranchement des vertébrés. Et un de mes piliers de travail, c'est aussi la médecine évolutionniste, c'est que nous sommes construits pour réagir par le mouvement, en fait, ou en tout cas par l'action. Et donc, en fin de compte, lorsque nous avons une émotion, un besoin, ben, nous devons y répondre. Et sur le coup, comme beaucoup de choses se passent inconsciemment, bah, on prend la première chose qu'on peut avoir sous la main, comme une barre de chocolat ou des chips, par exemple. Voilà. Alors, les raisons les plus communes aux mauvaises habitudes liées à la nourriture que je peux rencontrer, et encore, je suis en train de schématiser, donc ce n'est pas peut-être votre cas du tout, mais si je dois faire une liste comme ça rapidement, dans l'ordre d'assouvir ses besoins, il va y avoir le manque d'affection, le sentiment d'insécurité, une colère qui peut être contre soi-même aussi, et puis la peur. Il y a aussi d'autres sujets, comme l'estime de soi, ou tout simplement la lassitude. Des fois, on peut être dans un simple cas de lassitude, en fait, et de mauvais réflexes, parce qu'on s'embête.
Ok, bien, merci de nous avoir expliqué tout ça. Et alors, les séances, ça se passe comment avec toi ? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu analysais beaucoup en fait, les mouvements corporels des personnes. Donc, est-ce qu'il faut être en cabinet pour te consulter ou,
Alors, ça se passe en cabinet ou en visioconférence. Ça se passe comment ? Bah, en fait, généralement, je parle 10 minutes avec la personne avant qu'on se voit parce que je veux vraiment avoir une probabilité assez importante de réussite. Donc, je ne reçois pas des gens en disant « Venez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Y a des cas que je ne vais pas prendre pour différentes raisons. » Et puis, il y a des cas en disant « Écoutez, je pense qu'on a une très grande chance d'y arriver. Ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise dans ma démarche et de ne pas dépenser mon énergie et de ne pas créer de mésententes ou de déceptions. » Car on peut rencontrer des personnes qui viennent disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Et à la fin, on voit que la personne, elle perd tous ses moyens, elle n'a plus confiance en elle, elle croit qu'il n'y a aucune chance. Donc, il y a un devoir déontologique de la part des professionnels. Et puis, côté du patient, il y a aussi une chose, c'est qu'on a aussi une tendance à vouloir chercher des solutions rapides, faciles, et qu'on voit qu'on commence un peu à toucher le dur, que ce n'est pas si simple que ça, qu'il faut travailler entre les séances, bah, on laisse tomber et puis on passe à autre chose. Donc à la fin, vous pouvez voir une personne qui a essayé de changer quelque chose pendant 2 ou 3 ans, qui a essayé 15 trucs et qui dit « bon, tout ça, ça ne marche pas, c'est nul, etc. etc. » Donc cette conversation elle est assez importante. Et puis après, je vais être assez contractuel dans le sens où il y a 2 personnes avec un objectif. Et puis, on définit l'objectif de départ. Voilà, j'aime bien circonscrire le périmètre. Après, c'est mon travail de bien entendre, écouter, voir les choses. Et puis, rapidement, de fournir une stratégie, de proposer un plan d'action dès la première séance pour avancer sur ce sujet. Le patient, il doit comprendre en fait qu'il doit travailler entre les sessions. En fait. Je me positionne comme une sorte de guide de montagne. Je dis bien guide de montagne, c'est-à-dire pas quelqu'un qui décide de monter un sommet, mais la personne, le patient, le client, lui, décide de monter un sommet et je suis juste le gars à côté qui lui dit bah, « Tiens, là, il faut telle corde, là, il faut tel piolet. Et puis là, sur cette petite falaise, moi, je te conseille plus de passer à gauche ou à droite. » Mais je suis pas du tout me positionne pas du tout comme la personne en disant « Monte sur mon dos, t'inquiète pas, t'as rien à faire, on va arriver en haut. » Non, c'est la personne qui doit monter, gravir cette montagne pour arriver à ce sommet. Donc, c'est là aussi que c'est important dans cette conversation de départ d'être avec des gens réellement motivés et qui ne pensent pas en disant « Ah oui, vous faites de la programmation, bah, programmez-moi rapidement et puis on se verra. » Ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment une démarche, en fait. D'ailleurs, vous pouvez le voir au quotidien vis-à-vis de vous et de vos proches. Lorsqu'on n'est pas vraiment déterminé à quelque chose, on le fait mal, en fait. Voilà.
D'accord. Et alors, quel résultat on peut attendre, en fait ? Ça prend combien de temps, combien de séances pour voir des changements ?
En fait, ça dépend le cas. Donc, si vous allez voir votre garagiste et vous lui dites « Vous me prenez combien d'heures de main-d'œuvre pour changer une courroie ?» Il peut vous donner quelque chose, mais comme ça... On peut dire que des fois, en une séance, tout est réglé. Des fois, il en faut deux ou trois. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'oblige dès la première séance et même dès les 10 premières minutes de conversation sans engagement à ce que la personne elle ait une direction, en tout cas mon point de vue, sur une bonne direction pour avancer sur ce sujet.
Oui, et d'ailleurs, moi, j'ajoute qu'il n'y a pas de formule magique hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes... qui pensent qu'on peut les hypnotiser et hop, c'est fait. Moi, ce que je vois, c'est que quelle que soit la problématique, il faut avoir envie de changer parce que s'il n'y a pas ne serait-ce qu'un peu de volonté, ça ne tient pas. Vraiment, le moteur, c'est le désir de changer. Merci pour cette discussion. Merci hein, pour la délation sur les chips. Je vous précise...
Paprika, les chips,
paprika. Oui, oui, bah... Oui, alors si vous voulez m'offrir des chips, ce sont des chips au paprika, mais des chips suisses, attention. C'est la meilleure marque. Donc, je remercie beaucoup Marco donc, qui m'a dénoncé. Je précise que je n'engouffre pas de gros paquets de chips, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, je m'en autorise quelques-unes et très peu. Voilà, alors merci beaucoup Marco pour cette discussion. Si on veut te retrouver sur les réseaux, on va où ?
Alors, il y a mon site où il y a le blog avec pas mal d'articles un peu plus techniques sur ce que je fais. Donc, c'est reachyourgoal.ch, donc atteindre tes objectifs, reachyourgoal.ch. Et puis après, sur les réseaux, alors il y a marco.pao.coach sur Instagram, une chaîne YouTube et TikTok qui est tout simplement Marco Pao. Et puis, merci encore pour cette invitation.
Alors, ce mois-ci, le menu que je vous propose, eh bien, ce sont des fades de radis. Testez, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Moi, d'ailleurs, ce que j'aime faire, c'est les accompagner d'un riz blanc nature. C'est vraiment excellent. Merci encore, Marco, d'être venu.
Bah, de rien du tout. Merci à toi. Et puis, je vais le dire parce que tu as du mal à le dire, parce que je vois qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent sur ton podcast, qui prennent tes menus. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour l'aider pour son podcast. Mettez 5 étoiles et faites connaître son podcast parce que bon, elle a du mal à dire ce passage-là, donc je le fais à sa place. Mais il y a beaucoup de travail à chaque fois. Elle passe des heures à l'écrire, à travailler ses menus, à les tester, à me les faire manger, ce qui est pas une corvée. Mais s'il vous plaît, parlez-en autour de vous et mettez des commentaires. Et puis, merci. Ciao.
Alors voilà, c'est la fin de cet épisode de Ma cuisine ayurvédique. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous pensez que vous auriez besoin d'un accompagnement combiné Ayurveda plus thérapie ou life coaching, eh bien vous pouvez vous rendre sur mon site internet ayurvedageneva.ch, rubrique contact, et m'envoyer directement un message me dire quelle est votre problématique. On peut programmer un mini bilan gratuit, soit avec moi-même, soit avec Marco, pour voir ensemble si cette formule peut vous aider. Vous pouvez aussi directement contacter Marco si jamais vous pensez que ses compétences peuvent vous être utiles dans vos besoins de changement, etc. Nous, on se retrouve très vite, que ce soit sur les réseaux sociaux où je suis présente via la page Ma Cuisine Ayurvédique ou dans le prochain numéro du podcast, et je vous dis à très bientôt.